Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez Investir, 65e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Vous souhaitiez dédier cette émission à Louis-Gaston Peloux.
Oui, effectivement Philippe, je souhaitais dédier ces émissions d'aujourd'hui à Louis-Gaston Peloux qui nous a quittés dans la nuit de mercredi à jeudi et qui fut le créateur de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Sujet dont nous parlons souvent dans Osez Investir. Le monde de l'immobilier perd en sa personne un immense professionnel. Nous avons une pensée naturellement émue et attentive pour sa famille.
On l'a bien évidemment.
Sud Radio, Osez Investir.
Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ?
Eh bien, Philippe, d'un ventilateur et purificateur d'air comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Jérôme Russac, président de LEA Finance, cabinet de gestion de patrimoine, afin de savoir ce qu'il faut faire avant le 31 décembre pour réduire ses impôts. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadeau et nous terminerons avec Sébastien Beurel, promoteur sur la région Hauts-de-France, qui va nous faire un focus sur l'immobilier neuf à Lille.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Alexandre Jardin, écrivain.
TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et maintenant, vous allez nous parler du ventilateur et purificateur chauffant Dyson Pure Hot and Cool.
Oui, Philippe, je voudrais vous parler de l'entreprise Dyson, que tout le monde connaît bien évidemment, et la solution innovante qui vous permet de purifier votre pièce et de détecter les polluants, les gaz nocifs, avant de capturer les particules dans ces différents filtres. C'est un appareil 3 en 1, c'est-à-dire c'est un purificateur d'air, un ventilateur et un chauffage. Il projette de l'air purifié dans toute la pièce à l'aide de la technologie air multiplié. Une télécommande est fournie avec le produit pour activer le mode nuit par exemple, ou encore pour faire tourner le purificateur jusqu'à 365 degrés maximum.
Et comment récupère-t-on les informations émises par cet appareil, Thomas ?
Eh bien, il suffit de télécharger l'application Dyson Link. Vous serez informé en temps réel des données et d'un diagnostic qui est transmis en temps réel, donc avec les informations.
Pardon. Mais combien ça coûte, Thomas ?
Eh bien, le ventilateur purificateur chauffant Dyson coûte environ 649 euros et vous pouvez dès maintenant l'acheter directement sur leur site dyson.fr ou .com.
Sud Radio, Osez Investir.
Notre invité cette semaine est Jérôme Russac, président de LEA Finance, cabinet de gestion de patrimoine.
Oui, Philippe, LEA Finance, fondée en 2004, est effectivement un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé en expertise financière, immobilière et fiscale, basé à Paris et à Lyon. Bonjour Jérôme Russac.
Bonjour Thomas.
Il ne nous reste que quelques jours à l'avant la fin de l'année. Est-il encore temps pour payer moins d'impôts ? Ça, c'est la vraie question.
Alors oui, bien évidemment, oui. On a encore un petit peu de temps devant nous, mais il faut quand même se dépêcher.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement ? Quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à nous ?
Alors, bien vérifier qu'on n'a pas déjà défiscalisé les années précédentes, voire cette année, et ne pas déplacer le plafond des niches fiscales qui est de l'ordre de 10 000 euros en 2020, le même qu'en 2019.
D'accord.
Et puis après, comme dans tout placement, on va essayer de diversifier et de trouver une ou deux solutions intéressantes.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le plafond de 10 000 euros déjà.
Alors, clairement, ce plafond, si vous avez une nounou, des employés à domicile au sens large, et plus une ou deux autres déficits que vous auriez pu faire dans les années précédentes, il faut bien être vigilant sur ces aspects-là.
Alors, quels sont les types de défiscalisation faciles et peu onéreuses à mettre en place ?
Alors, déjà, quand dites-moi. On fait un placement, il faut raisonner toujours sur les sujets d'investissement et de support sur lesquels on va placer son argent et pas uniquement sur la défiscalisation qu'on va en obtenir, parce qu'il y a toujours une notion de risque. Je dirais qu'il faut diversifier et pas placer tous ses œufs dans le même panier. C'est quelque chose d'assez important en matière d'investissement.
Alors, quand vous dites diversifier, vous pensez à quoi ?
Alors, le sujet de l'année, on a vu les gilets jaunes, on a vu des gens manifester en France. Et je crois que le sujet de l'année, c'est la retraite. Et il y a un nouveau support qu'on appelle le PER qui va nous permettre de réduire son impôt et tout en plaçant de l'argent à long terme sur un produit qui va nous permettre de capitaliser cet impôt et créer du patrimoine. Donc, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail, par exemple, en quelques mots, quelqu'un qui va mettre 10 000 euros sur un PER, il va avoir une économie d'impôt à la hauteur de ce qu'on appelle sa tranche marginale d'imposition. Mmh. En moyenne, 50% des gens qui payent leur impôt en France sont à une TMI donc de 30%. Donc quelqu'un qui va mettre 10 000 euros, il va économiser 3 000 euros d'impôt cette année.
Alors, comment dois-je m'y prendre pour régler ces dispositifs de dernière minute ? Parce qu'il nous reste 3 à 15 jours, 3 semaines, là on y est. Hein ? Comment on fait ?
Alors, le plus simple pour ce genre de dispositif, surtout qu'il date, lui-là, de la loi PACTE de 2019, donc il est assez récent, c'est de se rapprocher de son conseiller en gestion de patrimoine, éventuellement d'un conseiller bancaire, de son assureur, mais nous, on est assez spécialisés sur le sujet de la retraite, de l'impôt et du patrimoine, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on est très vigilant et on va pouvoir emmener l'investisseur dans sa défiscalisation, tout simplement.
Alors, est-il vraiment encore efficace aussi tardivement de faire quelque chose ?
Ah ben, de toute façon, la réduction d'impôt jusqu'au dernier jour, j'ai envie de dire jusqu'au 31 décembre, quand elle est actée.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
clairement.
Et est-ce que vous avez un ultime conseil à donner à nos auditeurs ?
L'ultime conseil, c'est ce que j'ai dit préalablement. Ouais. C'est pas une défisc en elle-même, une défiscalisation, pardonnez-moi pour l'abréviation, n'est jamais un objectif en soi. Et il faut se rappeler que c'est un investissement. Il faut bien regarder sur quoi on investit, que ce soit un placement financier ou un placement immobilier. Et voilà, quand on a compris ça, on peut aller chercher de belles économies d'impôts et transformer son argent en patrimoine, tout simplement.
Merci Jérôme Russac, et je rappelle que vous êtes le président de L&A Finance.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en Logement. Bernard, vous allez nous proposer votre mot de la semaine qui est la visite, donc.
Oui, Thomas. Visite qui vient de visitare ou voir souvent. Alors, chose promise, mon cher Philippe David, je fais ce matin cette chronique en latin. Faciam hoc columnae huius mane latine.
Ben voilà, vous avez l'accent du nord de Rome.
Exactement. On a perdu combien d'auditeurs, Donc en français, Bernard, ça donne quoi ?
Alors en français, c'est visiter, aller en visite, à ne pas confondre avec le droit de visite qui rappelle plutôt une convention de divorce. Quoique, en effet, le bailleur a un droit de visite de son bien une fois par an afin de s'assurer de l'état de ce bien, justement. C'est pas très pratiqué, mais ça existe. Alors bien sûr, de nouveaux et nombreux outils revisitent la visite. Ils permettent des visites à distance, des visites virtuelles, un positionnement sur une carte, une présentation 3D. Ils sont particulièrement utiles pour une première impression ou un début de sélection. Toutefois, ils ne sauraient remplacer la visite physique tant la relation d'un individu à l'immobilier est particulière et impliquante.
Alors les visites traditionnelles ont-elles encore un avenir ?
Oui, à l'évidence. La visite est un moment particulièrement important de la transaction. Commençons par la visite du professionnel qui fait connaissance avec le bien. Ce premier regard va conditionner pour partie la suite du processus et in fine le prix. Quels sont les points forts et les points faibles de ce bien, les facteurs déterminants. Ça va être un poids dans la décision finale du client.
Donc c'est si important que cela ?
Ben oui, ce moment est vraiment très important et le propriétaire comme le professionnel devront veiller à présenter le bien de la meilleure manière sans pour autant tricher, c'est une évidence. Les visiteurs doivent se projeter dans leur future habitation ou dans celle d'un locataire dans le cadre d'un investissement. C'est tout sauf anodin. Se sentir d'emblée à son aise en visitant peut conditionner toute la transaction.
Et en deux mots, Bernard, pour terminer.
Le professionnel doit aider et accompagner. Il se doit également de préparer cette visite et de s'y préparer sans négliger ce moment. Chaque bien, du plus modeste au plus prestigieux, a une histoire à raconter. Il faut donc réunir les meilleures conditions pour entendre cette histoire.
Merci Bernard.
Imoestim, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous étions au latin, on va passer au ch'ti, puisque nous sommes en duplex avec Sébastien Beurel, directeur régional de Nakara, promoteur dans les Hauts-de-France. Nous vous recevons ce matin pour parler de Lille.
Quelle entrée en matière, Philippe. Bonjour Sébastien
Beurel.
Vous
y parliez votre latin.
Bonjour messieurs.
Sébastien Beurel, comment se porte le marché du neuf sur Lille et quelle est sa tendance actuelle ?
Écoutez, le marché du neuf sur Lille, il est un petit peu en berne parce que quand on regarde la période janvier à septembre 2020 et qu'on la compare à l'année dernière, on constate un recul de 40% des ventes. Donc c'est assez significatif. Et on avait cru un ressaut en juillet confirmé en septembre et là, il y a un fléchissement très net. Donc pour l'instant, un marché qui n'envoie pas de bons signaux.
Alors au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur votre ville de Lille, vers quel type de bien dois-je m'orienter ?
Alors Lille et les communes de la première couronne offrent aujourd'hui 2600 logements à l'offre, ce qui est assez significatif, et pour un parcours résidentiel assez complet. Vous pouvez investir du studio au type 4 ou type 5, avec peut-être une particularité, c'est que la rareté foncière du centre-ville de Lille ne permet pas d'accéder au studio, mais sinon vous avez la possibilité de pouvoir investir soit de manière patrimoniale dans du grand logement, soit de manière locative dans des plus petits logements.
Alors si je veux investir dans le neuf, à quoi dois-je faire attention, le conseil du jour.
Bah déjà, je vais choisir des promoteurs qui sont de préférence affiliés à la Fédération des promoteurs immobiliers, puisqu'il y a un certain nombre de gages et de garanties qui sont apportées à nos clients, ne serait-ce qu'aussi le code éthique qui est primordial aujourd'hui dans ce type d'investissement de projet de vie. Et puis, c'est de choisir un bien proche des hubs de mobilité, de préférence le métro, parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a des véritables enjeux liés à la mobilité douce et parce que le bien ne perdra pas de valeur.
Merci Sébastien Beurel.
Et pour faire le mix entre Bernard Cadeau et Sébastien Beurel, je dirais allez à Jacques Taest et après chez Chat. Ça vous va ?
Oh, ça me va très bien.
Et ben c'est parfait.
C'est parfait.
Restez avec nous. On revient dans un instant avec le Club Osez Investir et Alexandre Jardin, écrivain.
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez Investir, 65e numéro, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Vous souhaitiez dédier cette émission à Louis-Gaston Peloux.
Oui, effectivement Philippe, je souhaitais dédier ces émissions d'aujourd'hui à Louis-Gaston Peloux qui nous a quittés dans la nuit de mercredi à jeudi et qui fut le créateur de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, sujet dont nous parlons souvent dans Osez Investir. Le monde de l'immobilier perd en sa personne un immense professionnel. Nous avons une pensée naturellement émue et attentionnée pour sa famille.
On l'a bien évidemment.
Sud Radio, Osez Investir.
Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ?
Eh bien, Philippe, d'un ventilateur et purificateur d'air comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Jérôme Russac, président de LEA Finance, cabinet de gestion de patrimoine, afin de savoir ce qu'il faut faire avant le 31 décembre pour réduire ses impôts. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadeau et nous terminerons avec Sébastien Beurel, promoteur sur la région Hauts-de-France, qui va nous faire un focus sur l'immobilier neuf à Lille.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Alexandre Jardin, écrivain.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et maintenant, vous allez nous parler du ventilateur et purificateur chauffant Dyson Pure Hot and Cool.
Oui, Philippe, je voudrais vous parler de l'entreprise Dyson que tout le monde connaît, bien évidemment, et la solution innovante qui vous permet de purifier votre pièce et de détecter les polluants, les gaz nocifs, avant de capturer les particules dans ces différents filtres. C'est un appareil 3 en 1, c'est-à-dire c'est un purificateur d'air, un ventilateur et un chauffage. Il projette de l'air purifié dans toute la pièce à l'aide de la technologie air multiplié. Une télécommande est fournie avec le produit pour activer le mode nuit par exemple, ou encore pour faire tourner le purificateur jusqu'à 365 degrés maximum.
Et comment récupère-t-on les informations émises par cet appareil, Thomas ?
Eh bien, il suffit de télécharger l'application Dyson Link, vous serez informé en temps réel des données et d'un diagnostic qui est transmis en temps réel, donc avec les informations.
Mais combien ça coûte, Thomas ?
Eh bien, le ventilateur purificateur chauffant Dyson coûte environ 649 euros et vous pouvez dès maintenant l'acheter directement sur leur site dyson.fr ou .com.
Sud Radio, Osez Investir.
Notre invité cette semaine est Jérôme Russac, président de LEA Finance, cabinet de gestion de patrimoine.
Oui, Philippe, LEA Finance, fondé en 2004, est effectivement un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé en expertise financière, immobilière et fiscale, basé à Paris et à Lyon. Bonjour Jérôme Russac.
Bonjour Thomas.
Il ne nous reste que quelques jours à l'avant la fin de l'année. Est-il encore temps pour payer moins d'impôts ? Ça, c'est la vraie question.
Alors, oui, bien évidemment, oui. On a encore un petit peu de temps devant nous, mais il faut quand même se dépêcher.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement ? Quelles sont les possibilités qui vont s'offrir à nous ?
Alors, déjà, bien vérifier qu'on n'a pas déjà défiscalisé les années précédentes, voire cette année, et ne pas déplacer le plafond des niches fiscales qui est de l'ordre de 10 000 euros en 2020, le même qu'en 2019.
D'accord.
Et puis après, comme dans tout placement, on va essayer de diversifier et de trouver une ou deux solutions intéressantes.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le plafond de 10 000 euros déjà.
Alors, clairement, ce plafond, si vous avez une nounou, des employés à domicile au sens large, et plus une ou deux autres défiscalisations que vous auriez pu faire dans les années précédentes, il faut bien être vigilant sur ces aspects-là.
Alors, quels sont les types de défiscalisation faciles et peu onéreuses à mettre en place ?
Alors, Déjà, quand on fait un placement, il faut raisonner toujours sur les sujets d'investissement et de support sur lesquels on va placer son argent et pas uniquement sur la défiscalisation qu'on va en obtenir, parce qu'il y a toujours une notion de risque. Je dirais qu'il faut diversifier et pas placer tous ses œufs dans le même panier. C'est quelque chose d'assez important en matière d'investissement.
Alors, quand vous dites diversifier, vous pensez à quoi ?
Alors, le sujet de l'année, on a vu les gilets jaunes, on a vu des gens manifester en France, et je crois que le sujet de l'année, c'est la retraite, et il y a un nouveau support qu'on appelle le PER, qui va nous permettre de réduire son impôt et tout en plaçant de l'argent à long terme sur un produit qui va nous permettre de capitaliser cet impôt et créer du patrimoine. Donc, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail, par exemple, en quelques mots, quelqu'un qui va mettre 10 000 euros sur un PER, il va avoir une économie d'impôt à la hauteur de ce qu'on appelle sa tranche marginale d'imposition. En moyenne, 50% des gens qui payent leur impôt en France sont à une TMI donc de 30%. Donc quelqu'un qui va mettre 10 000 euros, ben, il va économiser 3 000 euros d'impôt cette année.
Alors, comment dois-je m'y prendre pour régler ces dispositifs de dernière minute ? Parce qu'il nous reste 3 à 15 jours, 3 semaines, là on y est. Hein. Comment on fait ?
Alors, le plus simple pour ce genre de dispositif, surtout qu'il date, celui-là, de la loi PAC de 2019, donc il est assez récent, c'est de se rapprocher de son conseiller en gestion de patrimoine, éventuellement d'un conseiller bancaire, de son assureur, mais nous, on est assez spécialisés sur le sujet de la retraite, de l'impôt et du patrimoine, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on est très vigilant et on va pouvoir emmener l'investisseur dans sa défiscalisation, tout simplement.
Alors, est-il vraiment encore efficace, aussi tardivement, de faire quelque chose ?
De toute façon, la réduction d'impôt jusqu'au dernier jour, j'ai envie de dire jusqu'au 31 décembre, quand elle est actée.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Clairement, clairement.
Et est-ce que vous avez un ultime conseil à donner à nos auditeurs ?
L'ultime conseil, c'est ce que j'ai dit préalablement. Ouais. C'est pas une défisque en elle-même, une défiscalisation, pardonnez-moi pour l'abréviation, n'est jamais un objectif en soi. Et il faut se rappeler que c'est un investissement. Il faut bien regarder sur quoi on investit, que ce soit un placement financier ou un placement immobilier. Et voilà, quand on a compris ça, on peut aller chercher de belles économies d'impôts et transformer son argent en patrimoine, tout simplement.
Merci Jérôme Russac, et je rappelle que vous êtes le président de L&A Finance.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Bernard, vous allez nous proposer votre mot de la semaine qui est la visite, donc.
Oui, Thomas, visite qui vient de visitare ou voir souvent. Alors, chose promise, mon cher Philippe David, je fais ce matin cette chronique en latin. Faciam hoc columnae huius mane latine.
Ah ben voilà, vous avez l'accent du nord de Rome.
Exactement. On a perdu combien d'auditeurs, Bernard ? Donc en français, Bernard, ça donne quoi ?
Alors en français, c'est visiter, aller en visite, à ne pas confondre avec le droit de visite qui rappelle plutôt une convention de divorce. Quoique, en effet, le bailleur a un droit de visite de son bien une fois par an afin de s'assurer de l'état de ce bien, justement. C'est pas très pratiqué, mais ça existe. Alors bien sûr, de nouveaux et nombreux outils revisitent la visite. Ils permettent des visites à distance, des visites virtuelles, un positionnement sur une carte, une présentation 3D. Ils sont particulièrement utiles pour une première impression ou un début de sélection. Toutefois, ils ne sauraient remplacer la visite physique tant la relation d'un individu à l'immobilier est particulière et impliquante.
Alors, les visites traditionnelles ont-elles encore un avenir ?
Oui, à l'évidence. La visite est un moment particulièrement important de la transaction. Commençons par la visite du professionnel qui fait connaissance avec le bien. Ce premier regard va conditionner pour partie la suite du processus et in fine le prix. Quels sont les points forts et les points faibles de ce bien, les facteurs déterminants ? Ça va être un poids dans la décision finale du client.
Donc c'est si important que cela ?
Ben oui, ce moment est vraiment très important et le propriétaire comme le professionnel devront veiller à présenter le bien de la meilleure manière sans pour autant tricher, c'est une évidence. Les visiteurs doivent se projeter dans leur future habitation ou dans celle d'un locataire dans le cadre d'un investissement. C'est tout sauf anodin. Se sentir d'emblée à son aise en visitant peut conditionner toute la transaction.
Et en deux mots, Bernard, pour terminer.
Le professionnel doit aider et accompagner. Il se doit également de préparer cette visite et de s'y préparer sans négliger ce moment. Chaque bien, du plus modeste au plus prestigieux, a une histoire à raconter. Il faut donc réunir les meilleures conditions pour entendre cette histoire.
Merci Bernard.
Immoestime, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous étions au latin, on va passer au ch'ti, puisque nous sommes en duplex avec Sébastien Beurel, directeur régional de Nakara, promoteur dans les Hauts-de-France. Nous vous recevons ce matin pour parler de Lille.
Quelle entrée en matière, Philippe. Bonjour Sébastien
Beurel. Vous y perdriez votre latin.
Bonjour, bonjour messieurs.
Sébastien Borel, comment se porte le marché du neuf sur l'île et quelle est sa tendance actuelle ?
Bah écoutez, le marché du neuf sur l'île, il est un petit peu en berne parce que quand on regarde la période janvier à septembre 2020 et qu'on la compare à l'année dernière, on constate un recul de 40% des ventes. Donc c'est assez significatif. Et on avait cru un ressaut en juillet confirmé en septembre et là, il y a un fléchissement très net. Donc pour l'instant, un marché qui n'envoie pas de bons signaux.
Alors au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur votre ville de Lille, vers quel type de bien dois-je m'orienter ?
Alors Lille et les communes de la première couronne offrent aujourd'hui 2600 logements à l'offre, ce qui est assez significatif, et pour un parcours résidentiel assez complet. Vous pouvez investir du studio au type 4 au type 5, avec peut-être une particularité, c'est que la rareté foncière du centre-ville de Lille ne permet pas d'accéder au studio, mais sinon vous avez la possibilité de pouvoir investir soit de manière patrimoniale dans du grand logement, soit de manière locative dans des plus petits logements.
Alors si je veux investir dans le neuf, à quoi dois-je faire attention, le conseil du jour.
Déjà, c'est choisir des promoteurs qui sont de préférence affiliés à la Fédération des promoteurs immobiliers, puisqu'il y a un certain nombre de gages et de garanties qui sont apportées à nos clients, ne serait-ce qu'aussi le code éthique qui est primordial aujourd'hui dans ce type d'investissement de projet de vie. Et puis, c'est de choisir un bien proche des hubs de mobilité, de préférence le métro, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des véritables enjeux liés à la mobilité douce et parce que le bien ne perdra pas de valeur.
Merci Sébastien Borel.
Et pour faire le mix entre Bernard Cadot et Sébastien Borel, je dirais allez à Jacques Taest et après chez Chat. Ça vous va ?
Oh, ça me va très bien.
Et c'est parfait.
C'est parfait.
Restez avec nous. On revient dans un instant avec le Club Osez Investir et Alexandre Jardin, écrivain.
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.
Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons après cette pause avec notre invité Alexandre Jardin, écrivain à succès Thomas. Vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain.
Oui, Philippe, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Alexandre Jardin, en particulier avec cette chanson de Charles Trenet dont on pourrait croire qu'elle a été écrite pour vous tant vous êtes un jardin extraordinaire. Vous êtes en effet un couteau suisse de la vie, écrivain, essayiste, cinéaste, pamphlétaire. Vous êtes né un 14 avril, jour où le Titanic a fait naufrage, ce qui explique pourquoi vos engagements et vos coups de gueule ne laissent personne de glace. Le 14 avril, qui a vu également naître Robert Doisneau, le photographe du magnifique baiser de l'opéra, qui aurait très certainement pu accompagner de photos chacun des portraits que vous aviez décrits dans « Chaque femme est un roman ». Pourtant, le début de votre vie et de votre carrière ont été marqués à la pointe de l'épée, non pas d'un Z, qui veut dire Zorro, mais de deux Z. Le premier comme Zubial, le surnom de votre père, romancier lui aussi, Pascal Jardin, à qui vous consacrerez un livre en 1997. Le second par le Z de Zèbre, vainqueur du prix Femina 1988, adapté 4 ans plus tard au cinéma par Jean Poiret, avec comme acteur vedette un certain Thierry Lhermitte. Ce dernier qui aurait dit de ses stratagèmes pour reconquérir une femme dans le film ferait passer Jean-Claude Duss pour le Casanova des pistes de ski. Vous avez donc un côté Zorro pour votre relation à la lettre Z, mais aussi pour votre envie de voir les choses s'améliorer dans notre beau pays. Ce qui vous donne aussi un côté Obélix, l'embonpoint en moins, bien évidemment, car vous êtes tombé dans l'écriture comme le petit Gaulois est tombé dans la fameuse marmite de Potion Magique. Il faut dire qu'avec un père romancier à succès, il était naturel que vous écriviez des romans également à succès. Et le moins qu'on puisse dire est que vous n'avez pas mis longtemps à connaître la réussite, puisque c'est à 21 ans que votre premier roman a gagné le prix du premier roman « Ça ne s'invente pas », un ouvrage qui s'appelle « Bille en tête ». Une expression qu'on connaît d'ailleurs bien sur Sud Radio, puisque c'est la radio du rugby. Pour que ce portrait ne soit pas aussi long qu'un roman, je conclurai en affirmant que vous aimez la littérature, les femmes, les autres, la France, la lecture, bref, la vie. Que vous êtes un épicurien qui tire de la vie chaque goutte de sa substantifique moelle et que nous sommes très heureux de passer ce dimanche matin avec vous. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour. C'est un portrait adorable.
Voilà. Merci à vous. Alexandre Jardin, est-ce qu'enfant, Vous vous imaginiez écrivain ?
Pas du tout. Je pensais que j'allais être empereur. Donc vous voyez que...
vous partiez de loin.
J'ai connu une déchéance. Je suis devenu écrivain.
Non, pourquoi je vous pose la question ? Parce que en préparant l'émission, j'ai vu que vous avez fait Sciences Po, section économie et finances. Vous nous confirmez bien que vous êtes diplômé de Sciences Po ?
Oui. Ça peut sembler bizarre, mais
non, c'est une trajectoire.
On m'avait recommandé un ami de mon grand-père que je pensais un type bien, puis après, plus tard, quand j'ai publié un livre qui s'appelait Des gens très bien, j'ai appris que c'était un agent de renseignement de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, il y avait des gens très bizarres qui tournaient autour de moi. Ouais. Cet ami m'avait recommandé de faire, si je voulais faire de la politique, de faire une école de renseignement.
Et du coup, vous avez fait Sciences Po. Bon.
Oui, voilà.
Alexandre Jardin, vous vous rêviez empereur, mais plutôt Napoléon ou Caligula ?
Plutôt, il y avait un empereur qui me faisait rêver. Mmh. C'était Frédéric de Hohenstaufen, cet homme du XIIIe siècle qui a importé en Occident la science expérimentale arabe et qui a changé complètement le mode de pensée occidental. En fait, c'était ces empereurs-là qui me faisaient rêver, les gens qui changeaient notre mode de pensée. Et qui faisait beaucoup plus que gouverner, qui pensait au destin des hommes. Alors, c'est ça qui me faisait complètement rêver.
On vient d'entendre que vous vous imaginiez pas donc auteur, mais est-ce que pour autant votre vie d'auteur et de réalisateur, bref d'artiste, multifacette, s'est déroulée ou se déroule comme vous le souhaitez ?
Mais jamais. Jamais. Dieu merci.
D'accord.
Jamais.
Donc la vie commence demain pour vous.
La vie est inattendue comme son portrait.
Mais elle commence réellement parce que je suis en train de rencontrer la femme décisive de ma vie. Hein, et donc, lorsque tout à coup vous vous calez vraiment en face de la grandeur d'une femme, tout à coup vous devenez vraiment quelqu'un d'autre. Et donc, bien sûr que c'est complètement une autre existence qui démarque avec une autre puissance.
À 21 ans, vous avez écrit « Bille en tête », votre premier roman, qui, comme indiqué dans votre portrait, est salué par un prix. Comment on appréhende le deuxième roman, en l'occurrence « Le Zèbre » en 1988 ? On n'a pas la peur de décevoir, la peur de dire « on a tout donné dans le premier, ça va être très dur de faire un deuxième ?»
Mais non, j'ai toujours été dévoré par une fringale. Donc, je n'ai jamais connu l'angoisse de la page blanche. Il y a toujours eu une sorte de trop-plein qui sortait. Et puis, je n'ai jamais cru que c'était important. C'est-à-dire que j'avais appris de mon père qu'on pouvait écrire des chefs-d'œuvre sans le faire exprès. Parfois, je voyais mon père écrire pour payer ses impôts. Il signait un film, et donc ça partait pas sur des bases artistiques folles, et tout à coup, ça donnait un chef-d'œuvre. Alors que parfois, il y avait des films qui avaient de grandes intentions et qui étaient lamentables. Au final, donc je savais que l'art... supposer un degré de risque qui avait une énorme part d'aléatoire. Voilà. Donc je n'ai jamais cru qu'on faisait les choses exprès.
Alexandre Jardin, la littérature ou le cinéma, comme vous êtes très impliqué dans les deux, ce sont des arts mineurs ou des arts majeurs ? Ça peut être variable pour l'un ou l'autre. Hein.
C'est majeur si on traite des grands sujets et non pas seulement des intrigues. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est habitué aux intrigues de grande qualité lorsqu'on regarde les très grandes séries télé. Mais il y a très rarement des grands sujets. Et un sujet, ça n'a rien à voir avec une intrigue. Un sujet, lorsque vous allez voir Cyrano de Bergerac, ce n'est pas l'histoire d'un mec qui a un grand nez. c'est l'histoire d'une souffrance universelle, celle de ne pas être vu. Donc le sujet est immense et va bien au-delà des apparences. Donc oui, ça peut être grand si les sujets sont grands. Quand vous allez voir un film de Spielberg, le sujet est toujours beaucoup plus grand que l'intrigue.
Alexandre, qu'est-ce qui est le plus rentable ? Écrire des livres ou faire des films, puisque vous avez fait les deux ? Parce que, pardon, nous sommes dans une zone d'investir, alors je vais vous amener sur un autre terrain, sur un peu de l'argent.
Ce qui est le plus rentable, c'est de ne pas le faire exprès.
On a bien compris.
Parce que, comme dirait une expression de film, sur un malentendu, on peut peut-être y arriver, c'est ça ?
Sur un malentendu, vous faites un triomphe. Et donc... Et parfois, alors que vous pensez écrire le best-seller du siècle, personne ne le lit.
Parce que vous avez fait quand même un livre tous les deux ans, en moyenne.
Non, un peu plus.
Un peu plus
Un peu plus. Et puis j'ai écrit à côté de ça, en douce, une trentaine d'albums jeunesse.
D'accord.
Notamment que j'ai donné à McDonald's. et qu'on retrouve aujourd'hui en librairie. Mais là, j'en ai écrit 22. Qui ont été tirés 22 millions d'exemplaires.
Alors, vous êtes un citoyen engagé, par ailleurs. Oui. Est-ce compatible avec votre métier ? Est-ce que cela ne vous a pas nui à certains moments ?
Si, forcément, vous fâchez les gens lorsque vous dites certaines choses. Mais peu importe. Je veux dire, on sera peut-être mort demain. Je veux dire, tenant compte que du côté extraordinairement aléatoire de la vie. Vivons. Ne nous posons pas ces questions-là. Et puis... Je pense, puisque votre thème, c'est le fait d'investir.
Tout à fait.
Je crois qu'il faut accepter de faire des rencontres phénoménales. Des rencontres qui vous bouleversent. Et si ça s'est bien passé pour moi au début, c'est que j'ai rencontré une femme qui était géniale, qui était ma première éditrice, qui était une femme inspirée, qui s'appelait Françoise Verny, qui pesait 120 kilos, qui avait une tronche de dinosaure, qui était alcoolique, qui était bourré à partir de 18 heures, qui était ingérable, qui appelait ma première femme la nuit à 2 heures du mat pour lui dire de sortir de mon lit parce qu'elle était contre mon mariage. Un éditeur particulier, quoi.
Oui. Ah oui.
Mais j'étais bousculé par un être puissamment vivant. Oui. Et au fond, il faut mettre dans sa vie des êtres inconfortables. Des gens qui vous bousculent, des gens qui vous empêchent de devenir un mort-vivant.
Donc, vous n'aimez pas le confort du quotidien, en d'autres termes ?
Mais surtout pas !
Le message est passé, Alexandre Jardin.
Vous aviez cherché à vous présenter en 2017 à la présidentielle. 165 signatures sur 500 requises. Vous retentez le coup dans un an et demi ?
Non. Ce que je voulais, c'était créer un lobby du monde associatif et des territoires. À chaque élection, vous avez le choix entre tel parti centralisateur contre tel parti centralisateur. Et au fond, dans la tradition politique française, nos grands partis sont tous jacobins. Alors qu'il me semblait, et il me semble plus que jamais aujourd'hui, surtout en pleine crise Covid, où on voit que l'État central n'y arrive pas. Si ce pays redevient vivant, ça sera par ses territoires. On est sur Sud Radio.
Absolument.
On est sur une radio qui est pro-territoire. Et c'est ça que je voulais faire compter. Et on va y arriver.
Alors, comme le veut la tradition, vous avez retenu une musique de Nino Rota pour témoigner notre rencontre de ce matin.
Oui, Giovanni Nino Rota, qui a vécu au siècle dernier, est un compositeur et chef d'orchestre italien. Réputé pour ses compositions pour le cinéma, environ 170 films, notamment pour les films de Federico Fellini.
Alors, Alexandre Jardin, pourquoi ce choix musical ?
Parce que c'est la vie, c'est la gaieté, c'est le jeu. C'est l'élégance absolue de la légèreté. C'est tout le contraire de notre époque, de lugubre, de trouillard, de gens de Nino Rota, ça se sniffe. c'est l'élégance totale. Dans la légèreté.
Donc si je retiens quelque chose de votre passage dans Oser Investir, c'est que la vie commence demain. Merci d'être passé donc du côté de chez nous ce dimanche matin, Alexandre Jardin.
C'était le 65e numéro d'Oser Investir, et Oser Investir aussi, ça se sniffe comme du Nino Rota, mais pas autre chose. Merci de nous avoir suivis.
Et puis si vous êtes en manque, vous aurez la possibilité de nous écouter de nouveau sur Sud Radio le dimanche prochain, mais également d'ici là, vous pouvez réécouter notre émission sur sudradio.fr et sur tous les dispositifs digitaux, dont Oser Investir. investir.fr ou en téléchargeant nos applications. Merci de votre fidélité
et à dimanche prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore. Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons après cette pause avec notre invité Alexandre Jardin, écrivain à succès Thomas. Vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain.
Oui, Philippe, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Alexandre Jardin, en particulier avec cette chanson de Charles Trenet dont on pourrait croire qu'elle a été écrite pour vous tant vous êtes un jardin extraordinaire. Vous êtes en effet un couteau suisse de la vie, écrivain, essayiste, cinéaste, pamphlétaire. Vous êtes né un 14 avril, jour où le Titanic a fait naufrage, ce qui explique pourquoi vos engagements et vos coups de gueule ne laissent personne de glace. Le 14 avril, qui a vu également naître Robert Doisneau, le photographe du magnifique baiser de l'opéra, qui aurait très certainement pu accompagner de photos chacun des portraits que vous aviez décrits dans « Chaque femme est un roman ». Pourtant, le début de votre vie et de votre carrière ont été marqués à la pointe de l'épée, non pas d'un Z, qui veut dire Zorro, mais de deux Z. Le premier comme Zubial, le surnom de votre père, romancier lui aussi, Pascal Jardin, à qui vous consacrerez un livre en 1997. Le second par le Z de Zèbre, vainqueur du prix Femina 1988, adapté 4 ans plus tard au cinéma par Jean Poiret, avec comme acteur vedette un certain Thierry Lhermitte. Ce dernier qui aurait dit de ses stratagèmes pour reconquérir une femme dans le film ferait passer Jean-Claude Duss pour le Casanova des pistes de ski. Vous avez donc un côté Zorro pour votre relation à la lettre Z, mais aussi pour votre envie de voir les choses s'améliorer dans notre beau pays. Ce qui vous donne aussi un côté Obélix, l'embonpoint en moins, bien évidemment, car vous êtes tombé dans l'écriture comme le petit Gaulois est tombé dans la fameuse marmite de potions magiques. Il faut dire qu'avec un père romancier à succès, il était naturel que vous écriviez des romans également à succès, et le moins qu'on puisse dire est que vous n'avez pas mis longtemps à connaître la réussite, puisque c'est à 21 ans que votre premier roman a gagné le prix du premier roman « Ça ne s'invente pas », un ouvrage qui s'appelle « Bille en tête ». Une expression qu'on connaît d'ailleurs bien sur Sud Radio, puisque c'est la radio du rugby. Pour que ce portrait ne soit pas aussi long qu'un roman, je conclurai en affirmant que vous aimez la littérature, les femmes, les autres, la France, la lecture, bref, la vie. Que vous êtes un épicurien qui tire de la vie chaque goutte de sa substantifique moelle et que nous sommes très heureux de passer ce dimanche matin avec vous. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour. C'est un portrait adorable.
Voilà. Merci à vous. Alexandre Jardin, est-ce qu'enfant, vous vous imaginiez écrivain ?
Pas du tout. Je pensais que j'allais être empereur. Donc vous voyez que...
Vous partiez de loin.
J'ai connu une déchéance. Je suis devenu écrivain.
Non, pourquoi je vous pose la question ? Parce que en préparant l'émission, j'ai vu que vous avez fait Sciences Po, section économie et finance. Vous nous confirmez bien que vous êtes diplômé de Sciences Po ?
Oui. Ça peut sembler bizarre, mais
non, c'est une trajectoire.
On m'avait recommandé un ami de mon grand-père que je pensais un type bien, puis après, plus tard, quand j'ai publié un livre qui s'appelait Des gens très bien, j'ai appris que c'était un agent de renseignement de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, il y avait des gens très bizarres qui tournaient autour de moi. Ouais. Cet ami m'avait recommandé de faire, si je voulais faire de la politique, de faire une école de renseignement.
Et du coup, vous avez fait Sciences Po.
Oui, voilà.
Alexandre Jardin, vous vous rêviez empereur, mais plutôt Napoléon ou Caligula ?
Plutôt, il y avait un empereur qui me faisait rêver. C'était Frédéric de Hohenstaufen. Cet homme du XIIIe siècle qui a importé en Occident la science expérimentale arabe et qui a changé complètement le mode de pensée occidental. En fait, c'était ces empereurs-là qui me faisaient rêver. Les gens qui changeaient notre mode de pensée. Et qui faisait beaucoup plus que gouverner, qui pensait au destin des hommes. Alors, c'est ça qui me faisait complètement rêver.
On vient d'entendre que vous n'imaginiez pas donc auteur, mais est-ce que pour autant, votre vie d'auteur et de réalisateur, bref d'artiste, multifacette, s'est déroulée ou se déroule comme vous le souhaitez ?
Mais jamais. Jamais. Dieu merci.
D'accord. Jamais. Donc jamais. La vie commence demain pour vous.
La vie est inattendue comme son portrait.
Mais elle commence réellement parce que je suis en train de rencontrer la femme décisive de ma vie. Hein, et donc, lorsque tout à coup vous calez vraiment en face de la grandeur d'une femme, tout à coup vous devenez vraiment quelqu'un d'autre. Et donc, bien sûr que c'est complètement une autre existence qui démarre avec une autre puissance.
À 21 ans, vous avez écrit « Bille en tête », votre premier roman, qui, comme indiqué dans votre portrait, est salué par un prix. Comment on appréhende le deuxième roman, en l'occurrence « Le Zèbre » en 1988 ? On n'a pas la peur de décevoir, la peur de dire « on a tout donné dans le premier, ça va être très dur de faire un deuxième ».
Mais non, j'ai toujours été dévoré par une fringale. Donc, je n'ai jamais connu l'angoisse de la page blanche. Il y a toujours eu une sorte de trop-plein qui sortait. Et puis, je n'ai jamais cru que c'était important. C'est-à-dire que j'avais appris de mon père qu'on pouvait écrire des chefs-d'œuvre sans le faire exprès. Parfois, je voyais mon père écrire pour payer ses impôts. Il signait un film, donc ça partait pas sur des bases artistiques folles, et tout à coup, ça donnait un chef-d'œuvre. Alors que parfois, il y avait des films qui avaient de grandes intentions et qui étaient lamentables. Au final, donc je savais que l'art supposait un degré de risque qui avait une énorme part d'aléatoire. Voilà. Donc je n'ai jamais cru qu'on faisait les choses exprès.
Alexandre Jardin, la littérature ou le cinéma, comme vous êtes très impliqué dans les deux, ce sont des arts mineurs ou des arts majeurs? Ça peut être variable pour l'un ou l'autre. Hein.
C'est majeur si on traite des grands sujets et non pas seulement des intrigues. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est habitué aux intrigues de grande qualité lorsqu'on regarde les très grandes séries télé. Mais il y a très rarement des grands sujets. Et un sujet, ça n'a rien à voir avec une intrigue. Un sujet, lorsque vous allez voir Cyrano de Bergerac, ce n'est pas l'histoire d'un mec qui a un grand nez. c'est l'histoire d'une souffrance universelle, celle de ne pas être vu. Donc le sujet est immense et va bien au-delà des apparences. Donc oui, ça peut être grand si les sujets sont grands. Quand vous allez voir un film de Spielberg, le sujet est toujours beaucoup plus grand que l'intrigue.
Alexandre, donc, qu'est-ce qui est le plus rentable? Écrire des livres ou faire des films, puisque vous avez fait les deux? Parce que, pardon, nous sommes dans une zone d'investir, alors je vais vous amener sur un autre terrain, sur un peu de l'argent.
Ce qui est le plus rentable, c'est de ne pas le faire exprès.
On a bien compris.
Parce que, comme dirait une expression de film, sur un malentendu, on peut peut-être y arriver, c'est ça?
Sur un malentendu, vous faites un triomphe. Et parfois, alors que vous pensez écrire le best-seller du siècle, personne ne le lit.
Parce que vous avez fait quand même un livre tous les deux ans, en moyenne.
Non, un peu plus.
Un peu plus
Un peu plus. Et puis j'ai écrit à côté de ça, en douce, une trentaine d'albums jeunesse.
D'accord.
Notamment que j'ai donné à McDonald's et qu'on retrouve aujourd'hui en librairie. Mais là, j'en ai écrit 22. Qui ont été tirés 22 millions d'exemplaires.
Alors, vous êtes un citoyen engagé, par ailleurs. Oui. Est-ce compatible avec votre métier? Est-ce que cela ne vous a pas nui à certains moments?
Si, forcément, vous fâchez les gens lorsque vous dites certaines choses. Mais peu importe. Je veux dire, on sera peut-être mort demain. Je veux dire, tenant compte que du côté extraordinairement aléatoire de la vie. Vivons. Ne nous posons pas ces questions-là. Et puis... Je pense, puisque votre thème, c'est le fait d'investir.
Tout à fait.
Je crois qu'il faut accepter de faire des rencontres phénoménales. Des rencontres qui vous bouleversent. Et si ça s'est bien passé pour moi au début, c'est que j'ai rencontré une femme qui était géniale, qui était ma première éditrice, qui était une femme inspirée, qui s'appelait Françoise Verny, qui pesait 120 kilos, qui avait une tronche de dinosaure, qui était alcoolique, qui était bourrée à partir de 18h, qui était ingérable, et qui appelait ma première femme la nuit à 2h du mat pour lui dire de sortir de mon lit parce qu'elle était contre mon mariage. Un éditeur particulier, quoi.
Oui. Ah oui.
Mais j'étais bousculé par un être puissamment vivant. Oui. Et au fond, il faut mettre dans sa vie des êtres inconfortables. Des gens qui vous bousculent, des gens qui vous empêchent de devenir un mort-vivant.
Donc, vous n'aimez pas le confort du quotidien, en d'autres termes?
Mais surtout pas.
Le message est passé, Alexandre Jardin.
Vous aviez cherché à vous présenter en 2017 à la présidentielle, 165 signatures sur 500 requises. Vous retentez le coup dans un an et demi?
Non. Ce que je voulais, c'était faire, au fond, créer un lobby du monde associatif et des territoires. À chaque élection, vous avez le choix entre tel parti centralisateur contre tel parti centralisateur. Et au fond, dans la tradition politique française, nos grands partis sont tous jacobins. Alors qu'il me semblait, et il me semble plus que jamais aujourd'hui, surtout en pleine crise Covid, où on voit que l'État central n'y arrive pas. Si ce pays redevient vivant, ça sera par ses territoires. On est sur Sud Radio.
Absolument.
On est sur une radio qui est pro-territoire. Et c'est ça que je voulais faire compter. Mais on va y arriver.
–
Alors, comme le veut la tradition, vous avez retenu une musique de Nino Rota pour témoigner notre rencontre de ce matin.
Oui, Giovanni Nino Rota, qui a vécu au siècle dernier, est un compositeur et chef d'orchestre italien, réputé pour ses compositions pour le cinéma, environ 170 films, notamment pour les films de Federico Fellini.
Alors, Alexandre Jardin, pourquoi ce choix musical ?
Parce que c'est la vie, c'est la gaieté, ouais. C'est le jeu. C'est l'élégance absolue de la légèreté. C'est tout le contraire de notre époque, de lugubre, de trouillard, de gens de Nino Rota, ça se sniffe. c'est l'élégance totale dans la légèreté.
Donc si je retiens quelque chose de votre passage dans Osez Investir, c'est que la vie commence demain. Merci d'être passé donc du côté de chez nous ce dimanche matin, Alexandre Jardin.
C'était le 65e numéro d'Osez Investir, et Osez Investir aussi, ça se sniffe comme du Nino Rota, mais pas autre chose. Merci de nous avoir suivis.
Et puis si vous êtes en manque, vous aurez la possibilité de nous écouter de nouveau sur Sud Radio le dimanche prochain, mais également d'ici là, vous pouvez réécouter notre émission sur sudradio.fr et sur tous les dispositifs digitaux dont Osez Investir. investir.fr ou en téléchargeant nos applications. Merci de votre fidélité
et à dimanche prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.